franceinter.fr. Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour.
En 2011, vous vouliez mettre les banques sous tutelle. C'était dans votre programme. En 2017, vous voudriez, si besoin, en nationaliser une. Les banques, le fonctionnement des banques, c'est un problème central à vos yeux pour l'économie française.
C'est la mise au service, et ça a un rapport avec ce que je défends, la transformation concrète du système économique et financier, qui est un projet ambitieux, difficile, mais nécessaire. Il s'agit, en vérité, de reprendre la main sur le secteur financier pour le mettre au service de l'économie réelle, ce qui ne s'est pas produit. La loi sur la séparation bancaire a été très timide, pour ne pas dire inexistante. Elle ne concerne que 0,8% du bilan des banques. Et en vérité, les difficultés bancaires systémiques au plan européen réapparaissent. Il y a la menace italienne, il y a eu des alertes sur la Deutsche Bank, et nous avons un processus aujourd'hui de garantie européenne des dépôts des déposants qui est trop petit par rapport au danger que fait courir ce système.
Mais l'économie souffre d'un problème de financement.
Oui, pourquoi ? Parce que finalement, on n'a pas nettoyer, purifier en quelque sorte le bilan des banques européennes. On a en revanche organisé la prudentialité, si je peux employer ce mot, c'est Bâle 2, Bâle 3, et finalement on a serré le cordon de la distribution du crédit des banques, à tel point que la politique qu'on a appelée de facilitation bancaire de la Banque Centrale Européenne ne s'est pas répercutée sur l'économie réelle. Donc nous n'avons pas profité des politiques monétaires accommodantes qui auraient pu relancer la machine. Et ce n'a pas été le cas. La preuve, c'est que nous sommes dans une économie très plate et avec des problèmes de poursuite de la crise dans la zone euro.
Mais donc, vous seriez prêt à consacrer beaucoup d'argent, sans doute plusieurs dizaines de milliards d'euros, à la nationalisation d'une banque?
Alors, j'ai préféré avertir les Français en leur disant « je n'exclus pas de nationaliser une banque. On peut procéder autrement. » Mais je préfère le dire parce que pour moi, ce n'est ni un tabou, certainement pas, ni non plus un totem, c'est-à-dire obligatoire. Mais il faut le dire, on a déjà fait des nationalisations partielles, le monde entier a nationalisé, on peut le faire de façon temporaire, partielle, on a nationalisé partiellement PSA, Peugeot, on a pris 14% du capital, la famille s'est retrouvée à 14%, a diminué son influence.
On a aussi nationalisé le Crédit Lyonnais en 81, ça a été un désastre.
Oui, mais enfin, il n'y a pas que des désastres, il y a aussi des succès. PSA, par exemple, c'est un bon investissement pour les contribuables, l'action s'est envolée et elle a même doublé. Donc, en vérité, c'est un outil qui est nécessaire et je vais vous dire, c'est ce que le gouvernement italien est en train de faire avec la banque Monte di Paschi. Donc, nous sommes évidemment dans cette éventualité et c'est une des raisons pour lesquelles, voulant transformer le système financier, la réglementation doit évoluer. Je pense d'ailleurs, il faut regarder ce qui se passe sur les super profits des banques. 22,9 milliards l'année dernière. Les banques sont sorties de la crise, elles sont revenues à leur niveau de rentabilité d'avant crise. Je propose, puisque la France, elle, n'est pas sortie de la crise, qu'elle participe à la relance de l'économie française en prenant une partie des super profits. Je propose que 5 milliards par an pour financer le plan de relance économique et écologique du pays.
Dans votre programme économique, Arnaud Montebourg, on peut dire que vous ne regardez pas la dépense. Là où François Fillon veut faire 100 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique, vous voudriez au contraire augmenter cette dépense de 100 milliards avec les impôts qui vont avec ?
Non, avec des économies d'abord, première source de financement. C'est le cas du CICE, les grands groupes par exemple, vous savez le crédit d'impôt compétitivité emploi, les grands groupes, la grande distribution, les assurances n'ont pas besoin d'être soutenus par les caisses publiques. Donc il y a 10 milliards que je reprends chaque année, que je reprends pour financer notamment les baisses d'impôts, de CSG sur les salaires des classes populaires et des classes moyennes. Car je veux dire ici que je défends une stratégie de baisse d'impôts sur ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, jusqu'à 1,5 SMIC, c'est-à-dire environ 2000 euros.
Et de hausse pour les autres ?
Non, pas de hausse pour les autres. Pour une raison simple, c'est que plus les gens travaillent, plus on est nombreux à travailler, moins on a à s'acquitter de payer l'impôt. Et je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années et ce qui se passe dans toute l'Europe. On nous a dit qu'il faut faire des sacrifices pour maîtriser les comptes et faire baisser le chômage. Et en vérité, on a observé l'inverse. Il s'est produit l'augmentation du chômage et la dette a explosé. Je veux faire exactement l'inverse, suivant d'ailleurs les recommandations d'organisations internationales des plus raisonnables, le FMI, l'OCDE, partout dans le monde, préconise des plans de relance budgétaires, et notamment dans l'investissement écologique.
Peut-être pas aussi massif que ce que vous préconisez, vous, dans votre programme, Arnaud Montebourg. En parlant d'impôts, vous avez peut-être... Oui.
Je comptais ce point. Il y a 5 pays du G8, 10 pays du G20 qui font des plans de relance massifs. Monsieur Trump, d'ailleurs, n'est pas le dernier. Madame Theresa May, c'est le seul pays européen investi. Le Canada, c'est 46 milliards, c'est 35 millions d'habitants. Donc, je crois que l'obsession...
Ils ne sont pas au même niveau de dépenses publiques que nous.
Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de remettre au travail ce pays. Et je suis le candidat, c'est vrai, de la société du travail. Et par ailleurs, de la feuille de paix aussi, pour ceux qui en ont une, et pour ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient en avoir une.
En parlant d'impôts et de fiscalité, vous l'avez peut-être entendu à 7h30, un rapport de France Stratégie appelle à réformer en profondeur la fiscalité de l'héritage pour les rendre, ces héritages, plus redistributifs, pour que le patrimoine ne reste pas concentré dans des mains de ceux qui héritent et qui ont des fortunes de plus en plus grandes, pour que la France ne devienne pas une société d'héritiers. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui. D'ailleurs, je suis frappé de voir l'explosion des inégalités. Est-ce qu'on sait qu'il y a 65 personnes dans le monde qui ont le patrimoine, la richesse, permettant de faire vivre 3 milliards d'individus sur la planète ? C'est quand même ça, la réalité du monde. Je crois que la question fiscale est une question qui est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Mais elle ne peut pas se faire sans lisibilité, sans projet en contrepartie. On ne peut pas dire aux Français, le projet, on vous met des impôts, l'austérité fiscale, pour établir des comptes qui d'ailleurs ne se rétablissent que difficilement. On ne peut le faire que si on a un projet en face. Et mon projet, c'est un projet de relance économique, d'investissement écologique important, pour mettre au travail le pays et faire en sorte que nous soyons en mesure... Premièrement, de faire baisser le chômage de façon importante, d'obtenir une croissance plus élevée que celle que nous avons, d'être finalement assez compatible avec les contraintes européennes, car la croissance doit être relancée au plan européen, mais pour l'instant, il n'y a pas de détermination d'un certain nombre de pays très conservateurs sur ce sujet, même si je pense que nous pouvons rallier une majorité de pays dans la zone euro pour faire évoluer l'Europe. Et je crois que cet investissement...
En les convaincant par la conviction ?
Je crois qu'ils sont convaincus.
Vous avez eu cette formule, je vais aller à Bruxelles pour casser la vaisselle.
C'est une formule qui veut dire une chose très simple, une image. Elle veut dire que la question du rapport de force va être posée. Il y a un bloc conservateur qui défend des positions totalement isolées par rapport au reste du monde, qui est une position monétariste archaïque. Et il y a une majorité de pays dans la zone euro, la France doit en faire partie, qui doit maintenant s'occuper du sort des populations et de réduire le chômage de masse en faisant monter la croissance. La croissance, c'est une orientation politique, c'est un choix politique.
Et si ce bloc conservateur, comme vous dites, si Angela Merkel vous regarde casser la vaisselle sans rien dire, en attendant que ça se fasse, en refusant de vous céder, qu'est-ce que vous faites ?
D'abord, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas une directrice d'école et des élèves indisciplinés.
Non, il y a un rapport de force, comme vous dites, mais vous pouvez perdre ce rapport de force.
Il va falloir le construire et il ne faut pas le négliger. Parce que c'est comme ça que l'Europe s'est construite aussi. Entre amis, entre partenaires, on peut se dire des vérités quand même. Et pour moi, le fait qu'il y ait un bloc aujourd'hui réformateur, qui veut sortir de l'austérité, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, ils sont nombreux, quelles que soient d'ailleurs les orientations politiques des gouvernements, et qu'il y a en quelque sorte au sein de l'Union européenne une poussée des peuples qui veulent que l'Union européenne rejoigne le concert des pays dans le monde qui sont sortis de la crise, nous sommes aujourd'hui enlisés dans l'îlot des fous du monde. On a le sentiment qu'on prend toutes les décisions à l'inverse de ce que toutes les organisations internationales préconisent, tous les grands pays occidentaux font, et tous les pays émergents organisent. Donc nous avons à, faire bouger ce curseur. Donc ce sera, en effet, sur la table de la discussion. Personnellement, je défends la naissance d'un nouveau traité de Rome. Il va falloir dire ce que l'Europe doit faire ce qu'elle ne doit plus faire. Et il va falloir qu'on remette à plat le compromis historique entre partenaires européens. J'approuve parfaitement ce qu'a déclaré et écrit Hubert Védrine lorsqu'il parle de sauver l'Europe. J'ai envie de dire, c'est à peu près mon programme.
Encore un mot avant la revue de presse. C'est un autre curseur que vous voulez faire bouger, vous démarquer de la politique du gouvernement, c'est la diplomatie. La France, dites-vous, doit normaliser ses relations avec la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dire à Vladimir Poutine qu'on est d'accord avec lui?
Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que nous sommes un pays indépendant. Et quelles que soient nos alliances au sein de l'OTAN, nos alliances au sein de l'Union européenne, nous avons une politique étrangère qui doit s'exprimer et qui doit défendre nos intérêts et nos valeurs.
Elle ne le fait pas aujourd'hui.
Elle est dans des relations à l'intérieur de l'OTAN qui parfois ressemblent à une sorte de caractère supplétif. Vous voyez, nous sommes un peu à la remorque d'intérêts qui ne sont pas toujours les nôtres.
Vous parlez quoi? Des bombardements en Syrie et en Irak?
Je parle des intérêts américains, parfois. Et je pense que nous avons à reconstruire l'esprit d'une politique étrangère indépendante.
L'action contre Daesh en Syrie et en Irak, elle sert des intérêts américains, c'est ça que vous dites?
Mais il n'y a pas que ça. D'abord, ça, c'est une nécessité, puisque nous sommes aujourd'hui engagés dans un conflit et nous devons éradiquer le terrorisme. Je ne parle pas de ça. Lorsque nous sommes partis en Libye, rétrospectivement, regardez les résultats. Est-ce que le remède n'a pas été pire que le mal? Est-ce que finalement, nous n'avons pas commis l'erreur de nous engager dans cette aventure qui déstabilise une partie du Maghreb et qui a disséminé dans toute la bande sahélienne le terrorisme et a déstabilisé un pays qui menace d'ailleurs la fragile démocratie tunisienne qui défend son
alors pour la Russie aujourd'hui
son esprit laïque.
Vous souhaitez une levée des sanctions?
Non, je n'ai pas dit ça.
Ah si.
J'ai dit que je souhaitais que nous avancions dans un processus de retour à la normale. Ce qui suppose qu'il y ait des concessions réciproques du côté russe, notamment sur l'application des accords de Minsk. Je rappelle que la Russie a subi des sanctions en raison de l'affaire ukrainienne. Donc il s'agit justement de faire en sorte que nous avancions. Pourquoi?
Vous êtes prononcé clairement pour une levée des sanctions dans une interview au Monde fin décembre, fin novembre.
Non, je n'ai pas dit cela, monsieur Cohen. J'ai justement dit qu'elle devait être conditionnée à un processus qui est bilatéral, multilatéral, où la Russie fait cet effort. Donc, pour moi, elle a des efforts à faire, et nous aussi.
Arnaud Montebourg, invité de France Inter, on vous retrouve dans quelques minutes avec les auditeurs de France Inter, il est 8h33.